accent d'Europe, Léonard Vincent.
C'était le jour de Pâques hier, dimanche 5 mai, pour les chrétiens orthodoxes du monde entier. C'est dans ce monde orthodoxe qu'Accent d'Europe a choisi de vous conduire aujourd'hui. Et pour nous éclairer, je reçois Antoine Arjakovski. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, docteur en histoire, spécialiste de l'orthodoxie. Vous êtes aussi le co-directeur du département de recherche politique et religion au Collège des Bernardins à Paris. Vous êtes aussi enseignant. Vous avez enseigné à Kiev, à Londres, à Moscou, à Louvain, aux États-Unis. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Pour sortir de la guerre » aux éditions des Clés de Brouwer, paru l'année dernière. Et en quelques mots, est-ce que vous pourriez avant tout nous situer géographiquement et numériquement le monde orthodoxe aujourd'hui?
Alors, les églises orthodoxes, elles forment une communion de 16 églises dans le monde. Il y a les quatre patriarcats principaux de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, Jérusalem, Antioche, Alexandrie. Il y a les cinq patriarcats des différentes églises qui sont arrivées un peu plus tard, l'église de Géorgie, l'église de Moscou, etc. Et puis il y a encore six métropoles, dont la toute dernière, la métropole de Kiev, l'église orthodoxe d'Ukraine. Donc ça, dans l'ensemble, ça fait 16 églises orthodoxes dans le monde. Il y a aussi des églises autonomes qui dépendent de ces 16 églises autocéphales qui peuvent élire leur propre primat. Et chacune de ces églises a en plus des diasporas partout dans le monde. Donc si avant c'était facile de dire que voilà, le monde orthodoxe c'est la Russie, puisque 100 millions de personnes se déclarent orthodoxes en Russie, c'est l'Ukraine, c'est la Roumanie, c'est la Grèce, c'est la Bulgarie. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que il y a des diasporas partout. En France, il y a plus de 500 000 orthodoxes. Aux États-Unis, pareil, plusieurs centaines de milliers. En Amérique latine, donc c'est une église qui est devenue une église monde et qui peut plus être simplement limitée à l'église d'Orient. Et en plus, il faut ajouter à ces églises orthodoxes dites chalcédoniennes, c'est-à-dire qui toutes défendent le même credo de Nicée-Constantinople, qui croient que Dieu est un en trois personnes, qui croient que le Christ est vrai Dieu, vrai homme. Il y a aussi des églises qu'on appelle orientales, des églises orthodoxes orientales. Il y en a six. L'église d'Arménie, l'église copte, l'église assyrienne, l'église érythréenne, l'église éthiopienne, etc. Et donc ça, l'ensemble de ces églises orthodoxes chalcédoniennes, orthodoxes orientales, on considère que ça fait 260 millions de personnes dans le monde. Et donc, ça représente un poids plus faible que le monde catholique ou le monde protestant, mais quand même la troisième famille d'églises chrétiennes dans le monde.
On va se demander s'il existe ce qu'on pourrait appeler une idéologie orthodoxe, une morale commune, avec d'abord, on va faire un détour par la Grèce. La Grèce qui est une société aux mœurs assez conservatrices et où l'influence morale de la religion orthodoxe reste très forte dans la population. Lors du dernier débat de société qui a agité le pays cette année, à l'occasion de l'adoption en février du mariage de personnes du même sexe. Au final, malgré l'opposition nette de l'Église, la Grèce est devenue le premier pays à majorité orthodoxe à mettre en œuvre le mariage pour tous. Notre correspondant à Athènes, Joël Bronner, nous l'explique.
Fort de sa récente réélection, le premier ministre de centre-droit, Kyriakos Mitsotakis, utilise la télévision pour lancer le débat, début 2024, sur le mariage homosexuel. Il estime que la société grecque y est prête, reste à faire passer la pilule à l'Église orthodoxe. Lors de l'interview dans son bureau, le cadre laisse régulièrement voir Mitsotakis auréolé d'une icône, un tableau religieux. Le Premier ministre tente de donner des gages à l'Église. « Nous n'allons pas, je cite, jouer les apprentis sorciers, ni nous différencier de ce qui se passe ailleurs en Europe. » Mais l'homme fort du gouvernement reste ferme, indiquant « écouter » le point de vue du clergé, tout en rappelant « l'État légifère, il ne co-légifère pas avec l'Église. » Acte 2. En réponse, réunion extraordinaire du Saint-Synode. La plus haute autorité de l'Église orthodoxe en Grèce se dit sans nuance totalement opposée à la légalisation du mariage homosexuel. Peu avant le vote au Parlement, un même sermon dans toutes les églises du pays rappelle aux fidèles que l'Église défend le modèle de la famille traditionnelle, un père, une mère, des enfants. Acte 3. Juste avant l'adoption du texte, des représentants de l'Église et de partis ultranationalistes s'offrent un baroud d'honneur place Syntagma, mi-février, devant une foule où se mêlent drapeaux et croix. Le rassemblement démarre par une prière. Même lorsqu'elle perd un combat idéologique, l'orthodoxie s'est rappelée qu'il faut compter avec elle.
Alors Antoine Erjakovski, on voit bien cet aller-retour entre religion et politique. Alors à mesure que la politique se mêle de plus en plus de morale, l'Église orthodoxe intervient de plus en plus dans le débat politique. C'est ça la logique, la mécanique ?
Bon, d'abord, il y a une séparation entre l'État et les différents cultes en Grèce qui a été reconnue par les églises, et notamment par l'Église orthodoxe. Et néanmoins, il est vrai qu'il y a un financement des ministres du culte par l'État. Donc c'est différent de la laïcité à la française. C'est séparation et coopération. Donc c'est un dialogue qui se fait depuis que la Grèce fait partie de l'Union européenne. Et qui se passe plutôt bien au sens où il y a une écoute mutuelle. La majorité des citoyens grecs sont orthodoxes et donc il est obligé de faire attention, le Premier ministre, à ce que dit l'Église. Et c'est vrai que l'Église est majoritairement conservatrice dans ses positions sur des questions comme la famille, le mariage homosexuel, etc. Parce que voilà, c'est une théologie, disons, biblique, traditionnelle. Maintenant, il y a une partie des fidèles, une partie des évêques. Il y a une académie théologique à Volos en particulier qui est assez moderniste et qui défend une autre théologie en disant... Voilà, c'est ce que dit la tradition. Maintenant, l'évangile dit aussi que chaque personne est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et qu'il faut distinguer entre des condamnations anciennes et l'appel du Christ de respecter chaque personne. Et donc, ça rejoint aussi certaines évolutions au sein de l'Église catholique quand le pape François bénit les couples homosexuels. C'est aussi pour dire il y a ce que dit la tradition et puis il y a la pastorale. Et donc, je pense que dans l'Église de Grèce, il y a la possibilité pour un dialogue. Maintenant, c'est pas toujours le cas en Europe orientale. Et ce sujet, précisément, de la question du mariage homosexuel, est un de ceux qui fait le plus peur aux chrétiens, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou orthodoxes en Europe orientale. Notamment, là, récemment, il y a eu des manifestations en Géorgie. On agite le drapeau de la propagande occidentale en disant, voilà, ça va être la décadence, les mariages homosexuels, etc. Mais les Géorgiens répondent en disant, attention, nous on veut faire partie de l'Union européenne, on veut faire partie de la modernité, laissez-nous ensuite le choix de vivre notre vie dans l'Église et de la faire évoluer. Et ça, malheureusement, l'Église orthodoxe de Géorgie, là, n'écoute pas du tout.
On va parler maintenant de choses qui sont plus proches de l'actualité. La ligne de fracture entre le monde orthodoxe et les autres mondes chrétiens, catholiques, protestants, et le monde musulman passe purement géographiquement par des champs de bataille célèbres. Il y a eu la Yougoslavie, le pays des Slaves du Sud. Par exemple, la guerre d'indépendance grecque avant cela, au début du 19e siècle, et aujourd'hui l'Ukraine. Alors malgré tout, l'Ukraine, de chaque côté de la ligne de front, on est orthodoxe. Mais ces 10 dernières années, Antoine Erjakovski, les églises ukrainiennes et russes se sont en partie séparées. Vous allez nous expliquer ça en détail. Ça a été un processus essentiellement politique, sur fond d'agression militaire russe en Crimée et dans le Donbass.
C'est un processus politique, c'est aussi un processus religieux. C'est-à-dire que donc l'Ukraine, c'est environ 40 millions de personnes. Il y a 25 millions d'orthodoxes. Et sur ces 25 millions d'orthodoxes, il y a deux grandes églises. L'une, la plus nombreuse, on considère qu'elle fait 20 millions de personnes, qui s'appelle l'Église orthodoxe d'Ukraine et qui a reçu son autocéphalie par le patriarche œcuménique de Constantinople en 2018-2019. Et l'autre, l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, qui existe en Ukraine depuis le XVIIe siècle, en fait depuis la colonisation russe de l'Ukraine. Le patriarche Constantinople a perdu la main sur la nomination du métropolite de Kiev. C'est passé à Moscou sous certaines conditions. Ça a été remis en question justement en 2018-2019. Mais voilà, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de paroisses, d'ailleurs plus de paroisses, mais moins de fidèles et des fidèles plus âgés, donc environ 5 millions de personnes. Et ces églises en Ukraine, elles sont aujourd'hui toutes d'accord pour prendre leur distance par rapport au patriarcat de Moscou, parce que même l'Église qui relève du patriarcat de Moscou, elle voit que Moscou bombarde les églises orthodoxes, quelles qu'elles soient, et d'ailleurs tous les lieux de culte, juifs, musulmans, protestants, catholiques, etc. Et donc au mois de mai 2022, l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou a dit « nous, on quitte ». le patriarcat de Moscou. Et ça, quelque part, on s'est dit, ça va favoriser une réconciliation des églises en Ukraine, qui était en rupture, puisqu'il y avait une rupture entre Moscou et Constantinople. Et on se rend compte que, non, en fait, c'est plus compliqué que ça, parce qu'elles ont dit vouloir quitter le patriarcat de Moscou, mais l'État ukrainien demande des preuves de ça, et demande à chaque évêque ukrainien relevant du patriarcat de Moscou d'écrire une lettre officielle et la publier en disant « Nous, on veut plus rien avoir avec Moscou », et ils ne l'ont pas fait. Et en plus, il y a eu des cas d'intelligence avec l'ennemi, avec des choses très graves, où on renseigne des positions tout en se prétendant chapelain militaire. Et donc, voilà, il y a des cas aujourd'hui d'emprisonnement, etc. Donc, oui, il y a une dimension politique, puisque c'est bien Poutine qui invoque l'argument religieux pour dire « les orthodoxes d'Ukraine sont persécutés, etc. » Mais ça, en réalité, c'est quelque chose qu'il a inventé, puisqu'il n'y avait pas du tout de persécution avant qu'il décide d'envahir l'Ukraine. Mais il y a aussi une dimension religieuse avec un pays, l'Ukraine, qui demande à être reconnu comme un État-nation indépendant et qui veut gérer ses propres affaires lui-même, alors que pendant des siècles, il dépendait soit de Moscou, soit de Constantinople, soit de Rome pour la partie gréco-catholique. C'est quand même 5 millions de personnes en Ukraine qui sont des catholiques de rite oriental. Mmh. Donc aujourd'hui, le principal phénomène qu'il faut bien comprendre, c'est que les Ukrainiens veulent gérer leurs affaires eux-mêmes et le faire d'une façon originale. C'est-à-dire que nous, depuis la modernité, on dit « cuius regio, eius religio ». Tel territoire, tel prince, telle religion. Comme ça, on ne mélange pas les différentes confessions. Alors que les Ukrainiens, depuis le Concile de Florence, auquel, pour une partie, ils sont restés fidèles, il y a cette idée que la double communion est possible. On peut être chrétien et être en communion et avec Constantinople et avec Rome, et parfois même avec le monde protestant. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et c'est un phénomène que nous devrions étudier de façon plus précise, parce qu'on croit toujours que cette guerre, elle n'a que des causes géopolitiques. En réalité, elle a des causes aussi religieuses, ecclésiologiques, historiographiques, etc. Et on arrivera à sortir de la guerre, c'est ce que je raconte dans mon bouquin « Pour sortir de la guerre », justement, que si on prend les quatre têtes de l'hydre de cette guerre russo-ukrainienne, à savoir géopolitique, religieuse, historique et idéologique.
Alors c'est l'occasion d'évoquer le rôle éminent du patriarche de Moscou, de la personnalité de Kirill de Smolensk, qui est la figure dominante de l'Église orthodoxe russe. Alors qui est cet homme et quel rôle il joue dans le système de Vladimir Poutine ?
Un rôle central, c'est vraiment l'idéologue du régime poutinien. Certains le comparent à Goebbels par rapport à Hitler. C'est vraiment aujourd'hui, il a signé une déclaration du Congrès du peuple russe dans lequel il explique que l'Ukraine ne doit pas exister, dans lequel il explique que c'est une guerre sainte, donc c'est une sorte d'appel au djihad violent, et dans lequel il explique que c'est la Sainte Russie qui va sauver le monde entier. Il bénit une guerre d'agression. On voit des prêtres bénir des missiles Satan vers l'Ukraine. C'est absolument complètement délirant et postmoderne.
Comment c'est justifié verbalement, je veux dire ?
Eh bien, c'est justifié par le fait que la génération Vladimir Poutine, Kirill de Smolensk, etc., c'est des gens qui ont été des soviétiques, qui n'ont pas pu s'adapter à la libéralisation du monde, à la fin de leur vision aussi impériale de l'Église, et qui, du coup, ont été heurtés de plein fouet par cette modernisation parfois ultra-libérale et violente, et qui, du coup, ont choisi le chemin du cynisme, se sont enrichis eux-mêmes de façon mais phénoménale. Il est milliardaire, c'est quelqu'un qui a plusieurs yachts, des dizaines de palais, etc., et qui en sont venus à justifier un régime de nostalgie de l'Empire et qui sont prêts à tout pour ça. Et donc, ils ont développé cette idée que sans l'État, il n'existe pas. Et donc, ils sont obligés de soutenir la moindre déclaration de l'État, y compris lorsque l'État devient fasciste.
Il y a aussi derrière tout ça une dimension morale, c'est-à-dire une justification sur l'Occident décadent qui contamine un monde russe qui, lui, serait moins pénétré par l'homosexualité, les choses qui sont identifiées comme sataniques. Est-ce que ça, c'est simplement de l'habillage ou est-ce qu'il y a une vraie conviction derrière ça ?
Oui, malheureusement, il y a de vraies convictions, il y a des interprétations fondamentalistes qui aboutissent à une sorte de néo-fascisme qui n'est plus capable de voir les évolutions des personnes et la capacité compassionnelle aussi de s'adresser à chaque individu. Le rôle des femmes aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très présent en Occident. Il y a un mouvement d'égalité homme-femme qui est un des grands acquis de la modernité, qui n'a pas lieu du tout dans le monde oriental, au point que l'Église russe a légitimé une loi qui supprimait la possibilité de condamner les violences familiales devant le juge. Donc la Russie qui se présente sainte, en réalité, c'est l'endroit où il y a le plus de familles monoparentales dans le monde. C'est l'endroit où l'alcoolisme est un des plus développés en Europe. C'est l'endroit où il y a une sorte de violence au quotidien énorme et qui s'est accrue avec le retour des soldats russes qui étaient eux-mêmes sortis de prison, ceux qui se sont pas fait tuer en Ukraine, qui reviennent aujourd'hui en Russie, qui font la terreur autour d'eux dans les villages. Donc c'est un pays ultra violent, ultra dangereux, où il n'y a pas du tout de liberté de la presse, où il n'y a pas de respect des individus, et qui veut en plus faire la morale à un Occident qu'il considère décadent.
Ce durcissement de Moscou a provoqué des ongles de choc que dans d'autres églises. On va évoquer notamment Antoine Arjakovsky, le dilemme des églises orthodoxes d'Europe de l'Est jusqu'à la mer Noire. L'une de nos correspondantes à Bucarest, Marine Leduc, nous rappelle qu'en Moldavie, la guerre en Ukraine a bouleversé le paysage religieux. On l'écoute.
La Moldavie compte deux églises orthodoxes. D'une part, la métropole de Chisinau et de toute la Moldavie, qui est rattachée au patriarcat de Moscou. Et d'autre part, la métropole de Bessarabie, qui est, elle, subordonnée à l'église orthodoxe de Roumanie. Celle-ci avait été abolie sous la domination de l'Union soviétique, mais elle avait été réactivée officiellement en 1992, soit un an après l'indépendance du pays. De nos jours, environ 1300 paroisses moldaves sont toujours rattachées à l'église orthodoxe russe, contre 300 pour l'église orthodoxe roumaine. Mais la guerre en Ukraine commence à changer la donne. Plus d'une soixantaine de prêtres ont ainsi fait défection ces deux dernières années et se sont publiquement ralliés à l'église orthodoxe roumaine. Ils dénoncent l'agression russe en Ukraine et le soutien du patriarcat de Moscou au gouvernement de Vladimir Poutine. Et ce mouvement de défection semble ne faire que commencer. En novembre dernier, un consortium de prêtres a ainsi envoyé une lettre au métropolite de Chisinau, Vladimir, dans laquelle il le conjure de quitter la sphère d'influence russe et de rattacher sa métropole à l'église orthodoxe roumaine. Car selon eux, l'église orthodoxe russe n'est qu'un instrument de la politique d'expansion menée par la Russie actuelle.
Marine Leduc, l'une de nos correspondantes à Bucarest. Alors Antoine Arjakovsky, le 4 juin prochain, au Collège des Bernardins, à 19h, vous organisez une soirée sur les églises et la construction de la paix en Ukraine. De quoi va-t-on discuter ce soir-là ?
Alors oui, j'invite tout le monde à venir parce que ça va être une soirée passionnante. On va faire venir des Ukrainiens orthodoxes et gréco-catholiques. On va montrer des témoignages sur les aumôniers militaires catholiques ou orthodoxes en Ukraine qui font un travail très impressionnant de solidarité auprès des forces armées. On a organisé un séminaire au Bernardin avec l'Institut chrétien d'Orient, Pax Christi, l'Église orthodoxe et gréco-catholique ukrainienne. Avec cette idée, mais comment se fait-il que les églises dans le monde ont tellement de difficultés à se positionner par rapport au conflit russo-ukrainien ? On voit que le pape François, lorsqu'il parle du drapeau blanc, c'est-à-dire de la reddition éventuelle de l'Ukraine par rapport à la Russie, s'est pris un tollé partout dans le monde et pas simplement en Ukraine. On voit que le Conseil œcuménique des églises a réintégré des Russes au sein de son conseil directeur, alors que aujourd'hui ils sont obligés d'admettre qu'ils se sont fait rouler dans la farine et ils ont sorti un communiqué pour dire que non, ils peuvent pas accepter que ça soit une guerre sainte menée par le patriarcat de Moscou en Ukraine. Donc on voit que ces églises, elles ont du mal à se positionner. Et donc nous, au cours de cette soirée, on veut d'abord leur montrer la réalité de ce que vivent les églises en Ukraine. Et deuxièmement, leur donner des recommandations quand même assez fortes qui ont fait l'objet d'un consensus pour permettre à ces églises, mais aussi à chacun d'entre nous, à chaque occidental qui s'intéresse à la dimension religieuse du conflit, de se positionner et peut-être même de faire preuve de solidarité par rapport aux églises en Ukraine.
Merci Antoine Arjakovsky. Je rappelle que cette soirée aura lieu le 4 juin au Collège des Bernardins à Paris dans le 5e arrondissement. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de « Pour sortir de la guerre » chez Desclés Brouwer en 2023. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Restez avec nous, l'information continue sur RFI.